journal, Marc Fauvel, bonjour.
Bonjour à tous. À la une ce matin, un ballon, 22 joueurs et 3 milliards de téléspectateurs. La Coupe du Monde de foot débute aujourd'hui en Russie. On ira sur place bien sûr dans un instant. On écoutera aussi celui qui incarne le rêve des Bleus, Kylian Mbappé. Et puis un rendez-vous qui va vous accompagner pendant tout le mondial, les histoires de foot de Franck Ballanger. Terminus, tout le monde descend. La réforme ferroviaire sera définitivement adoptée aujourd'hui au Parlement, alors que les syndicats de la SNCF se déchirent désormais pour savoir s'il faut ou non continuer la grève. La crise diplomatique entre Paris et Rome va-t-elle franchir un nouveau cap ? Après les déclarations d'Emmanuel Macron sur l'Aquarius, le Premier ministre italien pourrait annuler sa visite prévue demain à l'Elysée. L'Aquarius et plus généralement le sort des migrants. On en parle également dans 20 minutes, Nicolas, avec votre invité.
Il s'agit du député des Landes et porte-parole du Parti Socialiste, Boris Vallaud. Dialoguez avec lui au 01 45 24 7000.
Dans ce journal également, une preuve de vie de la dernière otage française, Nicolas Sarkozy, qui distribue conseils et critiques à Laurent Wauquiez. Les deux hommes se sont vus hier. Et puis à la fin de ce journal, la série qui a bouleversé la Grande-Bretagne et qui arrive ce soir sur Arte, ça change du foot. C'est un sport qui brasse un pognon de dingue, comme dirait Emmanuel Macron. Et pourtant, c'est cette petite baballe qui fait rêver les gamins du monde entier. Alors, entrons-y des deux pieds dans cette Coupe du Monde de football. Un mois de compétition, 32 nations représentées et un pays hôte, la Russie, qui espère bien redorer son blason après une série de crises diplomatiques. Moscou attend la Coupe, dernier préparatif et petite carte postale moscovite signée Béatrice Duguay.
Un loup gris aux lunettes oranges qui shoote dans un ballon avec un grand sourire. Je vous présente Zabivaka, la mascotte de cette Coupe du Monde. Elle commence à envahir les commerces moscovites à côté des traditionnels matrioshka. Dans le marketing de la FIFA, il y a aussi un hymne. Et depuis quelques jours, un clip torride avec Will Smith et Ronaldinho au jonglage. C'est le début d'une opération séduction à 13 milliards pour Vladimir Poutine. Le président russe veut une organisation impeccable pour que les milliers de touristes étrangers repartent conquis. Et les Russes suivent manifestement, même ceux qui paraissent indifférents comme Alexei, voient la ville se transformer petit à petit en capitale du foot.
Je déteste le foot, mais je sens que la compétition approche. Il y a beaucoup de monde qui s'agite, qui se prépare.
Dans le métro, l'intense vie moscovite croise en toute sécurité celle des supporters à sombrero ou à drapeau autour des épaules. L'apparente austérité des Russes est faite de bienveillance, explique Kim, qui travaille dans la finance.
Je crois que tous les citoyens de notre pays organisateur veulent être des hôtes accueillants. Ils aident des touristes à se diriger et à traduire.
C'est aussi sur le terrain de la sécurité que cette Coupe du Monde de foot sera jugée. Aux mesures antiterroristes de ces derniers mois s'ajoute aujourd'hui une forte présence policière.
Moscou, Béatrice Duguay, France Antenne.
Et c'est donc la Russie qui jouera le premier ballon tout à l'heure. Match d'ouverture ce soir face à l'Arabie Saoudite à 17h heure française. Bonjour Franck Ballanger. Chaque matin, vous nous ferez vivre ce mondial à travers ces histoires, grandes ou petites. Celle que vous avez choisie ce matin, c'est celle d'un joueur russe qui sera sur la pelouse tout à l'heure, Alan Dzagoïev. C'est une star dans son pays, mais c'est aussi et surtout un rescapé.
Presque un miraculé, en fait, parce qu'il a échappé au massacre de Beslan. Beslan, c'est là-bas qu'est né Alan Dzagoïev, en Ossétie du Nord. Et le 1er septembre 2004, il a bien failli y mourir. Alors qu'il n'a que 14 ans, il échappe à une véritable tuerie. Un commando d'indépendantistes tchétchènes prend en otage 1300 personnes dans une école de la ville. Après l'assaut des troupes russes, on dénombre plus de 300 morts, dont 186 enfants. Alan Dzagoïev est un survivant. Se trouvait en fait dans l'école à côté de celle où a eu lieu la prise d'otage.
Ouais, une chose est sûre, hein, cette prise d'otage de Beslan a changé sa vie.
Après le 1er septembre 2004, plus rien n'a été comme avant pour Alan Dzagoïev. Ses parents, d'abord, sont devenus encore plus protecteurs avec lui. Son père, par exemple, s'est mis à refuser qu'il prenne le bus. Il le conduisait chaque matin à l'école, revenait le chercher, l'amenait à l'entraînement de foot. Et même lorsqu'il a signé au CSKA en 2004, ses parents ont déménagé dans la capitale et son père a continué à faire le taxi. En 2012, Alan Dzagoïev s'est marié, mais c'est sont toujours très présents.
Je vous interromps, Franck Ballanger, la liaison avec Moscou est trop mauvaise. On va réparer tout ça, évidemment, pour nos prochaines éditions. On vous le promet. Alors, qui succédera à l'Allemagne, tenante du titre, pourquoi pas elle-même. D'ailleurs, les Allemands sont éternels favoris, tout comme le Brésil et l'Espagne, à moins que la Belgique, l'Argentine ou le Portugal ne jouent les invités surprises. Quant à la France, elle compte sur sa nouvelle flèche en attaque, Kylian Mbappé, pour faire rêver les supporters des Bleus. Première Coupe du Monde pour le prodige de 19 ans, qui, pour se mettre encore un tout petit peu plus la pression, a choisi de porter le numéro 10, comme ses aïeux chez les Bleus Zizou et Platini, mais pas de quoi l'impressionner.
Oui, c'est moi qui le voulais. Il était libre, personne à l'horizon. Je l'ai pris. J'ai pris et je joue avec. Après, voilà, je le vois plus comme un gamin qui a toujours aimé ce numéro et qui joue avec chez les grands. Et qui, après, ça va pas trop changer ma manière de jouer, que j'ai le 10, le 12, le 29. Pour moi, c'est pareil. Après, je sais que c'est un numéro historique. Tu peux pas faire celui qui sait pas, hein. Bien sûr que tu penses, tu te dis que voilà, c'est un numéro historique. Après, je savais qu'il fallait assumer cette comparaison, même s'il n'y a aucune comparaison qui a lieu d'être. C'est comme ça, je suis content d'avoir ce numéro.
Kylian Mbappé avec Xavier Monferrand, les Français entrent en piste après-demain face à l'Australie, c'est à midi. D'ici là, il y aura aussi le premier choc de cette compétition, Nicolas, demain, entre le Portugal et l'Espagne.
Il est 8h06, Marc, le gouvernement est-il en train de gagner son pari à la SNCF?
Un taux de grévistes au plus bas, hier, des syndicats divisés, incapables de s'entendre sur la suite à donner au mouvement, et une réforme qui sera définitivement adoptée aujourd'hui après un dernier vote au Sénat. L'horizon s'éclaircit effectivement pour le gouvernement. Quant aux syndicats, ils n'ont plus grand-chose à négocier. Ils entreront tout de même en discussion demain pour tenter de négocier la future convention collective du ferroviaire avec le patronat. Mais les marges de manœuvre, Michael Thébault, sont étroites.
Extrêmement étroite même, car au grand dam des syndicats, la plus longue grève de ces 30 dernières années n'aura pas suffi à faire bouger les quatre fondements du projet gouvernemental. D'abord, la transformation du groupe SNCF en société anonyme, SA, qui permettra juridiquement l'ouverture à la concurrence, deuxième pilier. Et pour être concurrentiel, pas question d'être plombé par une dette abyssale. Donc oui, l'État reprendra 35 milliards d'euros sur les 46 milliards de dettes de l'entreprise. Et bien sûr, le quatrième pilier, celui de la discorde, la fin de l'embauche au statut au 1er janvier 2020. Et c'est là le cœur des négociations à venir. Quid de la future grille de classification et de rémunération des métiers du rail? Quid du droit au retour pour les cheminots qui seront transférés chez un opérateur privé? Pourra-t-on d'ailleurs refuser? Si oui, à quel prix? Question également sur la refonte des péages ferroviaires ou sur le maintien ou pas de la gratuité des billets. Autant de points ultra sensibles sur lesquels les syndicats promettent de ne rien lâcher.
Toujours au chapitre social, les agriculteurs mettent fin au blocage des raffineries et des dépôts de carburant. Mouvement levé par la FNSEA. Et puis la fac de Nanterre débloquée hier soir dans le calme. Les derniers étudiants qui occupaient encore un bâtiment ont quitté les lieux. Nanterre avait été parmi les premières à se mobiliser contre Parcoursup il y a 2 mois. C'était le dernier campus encore occupé. Après la Sécu, c'est au tour de l'assurance chômage de retrouver des couleurs. Cela faisait 10 ans depuis la crise de 2008 que les comptes de l'UNEDIC étaient dans le rouge. Ça sera fini l'an prochain. Ils reviennent à l'équilibre avant de renouer avec les excédents à partir de 2020. Tout cela grâce aux accords conclus ces dernières années entre les partenaires sociaux qui ont permis de faire des économies. Tout cela aussi grâce au recul du chômage. 130 000 demandeurs d'emploi en moins cette année d'après l'UNEDIC et encore 100 000 en moins l'année prochaine.
Y aura-t-il une chaise vide demain à l'Elysée?
Décidément, le sort de l'Aquarius tourne à la crise entre Paris et Rome après les attaques d'Emmanuel Macron. Hier, c'est presque toute la palette diplomatique qui a été utilisée. Convocation de l'ambassadeur de France à Rome, annulation d'une rencontre entre les ministres français et italiens de l'économie et demande d'excuses officielles de la part de Rome. Demain, c'est le premier ministre italien Giuseppe Conte qui pourrait annuler son déjeuner prévu à l'Elysée. Mais au-delà de ces coups de menton diplomatiques entre les chancelleries, la question posée en ce moment par les migrants de l'Aquarius, c'est bien celle du droit européen. Qui doit prendre en charge ces migrants et selon quelles règles? Explication Bertrand Galichet.
Au cœur de cette polémique sur l'accueil des migrants, le fameux règlement de Dublin, un texte dont la troisième mouture remonte à 2013 et qui fait peser la responsabilité de la demande d'asile sur le premier pays où un réfugié fait son entrée dans l'Union européenne. Ce principe est une charge très lourde pour des États comme l'Italie ou la Grèce qui ont vu arriver ces dernières années des vagues de réfugiés. Car même si les migrants se dirigent ensuite vers d'autres pays, ils ne peuvent pas y demander l'asile et seront renvoyés vers leur premier pays d'accueil en Europe. Pour compenser cette procédure, des quotas d'accueil censés répartir entre les différents États 160 000 demandeurs d'asile ont été instaurés après des discussions tendues. Mais plusieurs pays d'Europe de l'Est, comme la Hongrie, la Pologne ou la République tchèque, restent vent debout contre cette répartition, qui fonctionne par ailleurs très mal. Seuls 20% des objectifs ont pu être atteints. Les divergences sont telles que la réforme de ce règlement de Dublin devient inextricable et que certains pays espèrent la fin pure et simple du système des quotas.
Elle a 75 ans et depuis 1 an et demi, elle est retenue en otage quelque part au Mali. Depuis ce jour-là, la famille de Sophie Pétronin vit au rythme des vidéos diffusées par ses ravisseurs. La dernière a été publiée cette nuit. On y voit l'otage française qui travaillait dans une association d'aide aux orphelins s'adresser à son fils. Elle lui dit qu'il peut venir la voir, qu'il ne risque rien. Une preuve de vie et un soulagement, bien sûr, pour sa famille. Écoutez le cousin de Sophie Pétronin qui gère son comité de soutien.
On dira que le visage est beaucoup moins marqué et par rapport à la vidéo du 1er mars où c'était vraiment très affligeant. Là, on trouve qu'elle a repris du poil de la bête et on dirait qu'elle a repris le dessus, quoi. Il y a peut-être 30% qui nous dit super, ça va, et le reste où il y a toujours ces gros doutes de savoir quand ça a été tourné, est-ce que c'est pas un montage qui date d'il y a un an, et voilà. S'il faut partir là-bas, on partira tous les deux avec mon cousin. De l'aide ou pas d'aide, on partira là-bas. Nous sommes des Français moyens, mais on a un petit peu de jugeote et on espère qu'on sera accompagné par des services de l'État et qu'on rentre avec elle.
Arnaud Granouillac, le cousin de la seule otage française jointe par Delphine Evenou. Dans cette vidéo apparaît également une religieuse colombienne enlevée l'an dernier au Mali et qui s'adresse en français au pape François.
Qui a dit que Nicolas Sarkozy s'était retiré de la vie politique?
Alors que le parti Les Républicains tanque ces derniers jours sur fond de conflit entre le patron Laurent Wauquiez et sa numéro 2 Virginie Calmels, voilà que l'ancien chef de l'État revient en piste, ou plutôt en coulisses. Il a rencontré Laurent Wauquiez hier et lui a distribué quelques conseils et quelques piques Estelle Schmitt.
Nicolas Sarkozy persiste. Pour lui, c'est Laurent Wauquiez qui doit prendre la tête de liste aux élections européennes. Selon son entourage, l'ancien président de la République a expliqué au nouveau patron des LR qu'un chef doit montrer qu'il est un chef et que même s'il perdait, personne ne pourrait lui reprocher d'avoir défendu son parti. Laurent Wauquiez lui refuse, expliquant qu'il a choisi de se consacrer à la région Auvergne-Rhône-Alpes qu'il préside. Plusieurs de ses proches voient d'ailleurs dans ce conseil de Nicolas Sarkozy une forme de piège. On sait qu'on ne fera pas un gros score aux européennes, assure un cadre. Alors pourquoi envoyer Laurent Wauquiez au casse-pipe, s'interroge-t-il. Et Nicolas Sarkozy a une nouvelle fois reproché à Laurent Wauquiez sa méthode, d'être trop refermé sur lui-même, de prendre ses décisions dans son coin. Un chef doit savoir animer une équipe, a répété l'ancien président de la République. C'est vrai qu'après les propos de Virginie Calmels sur le tract pour que la France reste la France, Laurent Wauquiez n'a pas agi en bon DRH, acquiesce un sarkozyste. Officiellement, l'ancien président de la République souhaite que Laurent Wauquiez trouve ses marques, mais en privé, il reconnaît que leurs relations sont quelque peu ternies par l'affaire des enregistrements.
Et dans la série, tiens, que deviennent les ex-présidents de la République? Des nouvelles également de François Hollande. Il est partout ces derniers temps pour dire tout le mal qu'il pense de son successeur à l'Élysée. Hier soir, c'était sur C8, dans l'émission Au tableau, où François Hollande était questionné par des enfants, ce qui a donné cet échange un peu sucré. Écoutez.
C'est quoi la chose la plus blessante qu'on vous a dite?
Qui me l'aurait dit? Non,
On vous surnommait Flamby.
Ah oui, mais ça, c'était, tu vois, c'était un ami politique qui m'avait trouvé cette formule.
Qui ça?
Ah, c'était dans les débats du Parti Socialiste, c'était Arnaud Montebourg.
Ah.
Mais finalement, Flamby, je me suis dit, mais c'est, il veut me blesser, mais c'est une très bonne proposition qu'il a faite. Je ne connais personne qui n'aime pas le Flamby.
Voilà, il faut imaginer Flamby heureux, François Hollande, dans le texte hier soir sur C8.
À l'étranger, Volkswagen n'en a toujours pas fini avec le Dieselgate.
Presque 3 ans après le début du scandale, le constructeur écope d'une amende d'1 milliard d'euros, l'une des plus grosses jamais infligées par la justice allemande. Mais pour le groupe, c'est une goutte d'eau comparée à la facture totale de cette affaire, en y ajoutant les dommages et intérêts, les rappels de voitures, les procès. Elle dépasse déjà les 20 milliards d'euros. La facture de la pollution qui se mesure aussi à l'autre bout du globe, en Antarctique. Jamais la banquise n'avait fondu à ce rythme, affirme une étude internationale publiée ce matin. La fonte des glaces au pôle sud a déjà provoqué une hausse de l'ensemble des océans de 8 mm, disent les scientifiques. Si toute la banquise venait à fondre un jour, les océans grimperaient de près de 60 mètres. Aux États-Unis, Rambo, rattrapé par l'affaire MeToo, l'acteur Sylvester Stallone, 71 ans, est visé par une enquête pour agression sexuelle après une plainte déposée par une femme. Les faits se seraient déroulés sur un tournage dans les années 90. L'acteur reconnaît avoir eu une relation avec elle, mais il conteste toutes ces accusations.
Il est 8h14, il n'y a pas que du foot ce soir à la télé.
Série choc à découvrir sur Arte, ça s'appelle Three Girls, c'est une fiction que l'on doit à la BBC, inspirée de faits réels qui ont secoué la Grande-Bretagne il y a quelques années. La série retrace l'histoire de plusieurs adolescentes prises au piège d'un réseau de prostitution. Alexandra Hakoun l'a vu pour nous.
2008, Rochdale, banlieue triste de Manchester, dans le nord de l'Angleterre. 3 gamines issues de milieux pas vraiment aisés qui traînent, se disputent avec leurs parents.
Pourquoi tu fais ça?
Je fais quoi?
Picoler, traîner dans la rue toute la journée, manquer de respect à ton père. Tu nous rends la vie encore plus pourrie qu'elle ne l'est, surtout la mienne.
J'ai honte de toi.
Se laisse payer kebabs et alcool par des hommes d'origine pakistanaise plus âgés et qui voient le piège sur elle se refermer.
Quand est-ce que tu vas me laisser coucher avec toi?
Je veux pas.
Je t'ai offert plein de choses. Aujourd'hui, c'est ton tour de m'offrir quelque chose.
Non!
Viens! Tu m'appartiens maintenant. Si tu me trahis, je te tue.
Et lorsque l'une d'elles se décidera à parler, ni la police, ni les services sociaux ne voudront la croire. L'affaire sera classée. Jusqu'à ce qu'en 2011, une équipe de la police du Grand Manchester décide de rouvrir le dossier et découvre l'ampleur du phénomène.
Je vais pas te mentir, Maggie, c'est le bordel.
Combien de victimes ?
47, un vrai carnage.
Basé sur les entretiens et témoignages parus dans la presse, les PV du procès, il y a du Ken Loach dans la manière dont cette histoire nous est contée. Une réalité brute, ces victimes de viols que la société juge inconsciemment ou non. Un racisme de classe qui prend aux tripes, porté par de jeunes actrices bouleversantes. Three Girls a réuni plus de 8 millions de téléspectateurs l'an dernier sur BBC One et contribué à libérer la parole dans tout le pays.
Et les trois épisodes de cette série britannique sont donc à découvrir ce soir 20h55 sur Arte.